Vous écoutez, on lit pour vous.
Feu vert à la démolition d'un rare bâtiment agricole au toit de Chaume. Un texte de Jean-François Nadeau paru le 5 avril 2024 dans Le Devoir. À Cap-à-l'Aigle, une très rare grange étable au toit de paille, communément appelée Chaume, pourra être détruite. La MRC de Charlevoix-Est s'est rangée à ce sujet du côté de la municipalité de la Malbaie, qui avait déjà signifié sa condamnation. Il s'agit d'un des derniers bâtiments du genre en Amérique du Nord. Ce bâtiment de bois et de paille, connu sous le nom de grange étable Bérère, est pourtant protégé en vertu de la loi sur le patrimoine culturel. Il jouit d'une citation officielle depuis 2006. La ville avait, dans un premier temps, autorisé la démolition en se disant incapable de trouver des solutions pour assurer l'avenir du bâtiment. Compte tenu de l'état de détérioration avancée du bâtiment, du fait que la grange n'a plus d'utilité particulière, de la notion d'assurabilité de l'immeuble, des coûts majeurs qu'une restauration impliquerait et du risque qu'elle représente, le comité de démolition de la municipalité a autorisé la démolition de celle-ci lors d'une rencontre tenue le 17 janvier 2024, peut-on lire dans un communiqué de la ville. La Fédération Histoire Québec avait contesté cette demande de démolition, arguant que le bâtiment constitue une des traces les plus importantes de la présence allemande sur le territoire québécois et qu'elle témoigne d'un savoir-faire unique. La décision de démolir s'est ainsi retrouvée soumise pour une contre-évaluation aux maires de la région, lesquels sont réunis sous l'égide de la MRC de Charlevoix-Est. La MRC, par la voix de sa préfète Odile Comeau, affirme avoir cherché en vain des solutions. Madame Comeau, qui est par ailleurs mairesse de Saint-Irénée, a dit ne pas en avoir trouvé de viable, si bien que la MRC n'a pas cru bon de désavouer la décision de démolir rendue par un comité de la Malbaie. La MRC reconnaît néanmoins la valeur patrimoniale du bâtiment, sans être à même d'en assurer la pérennité. Une grange exceptionnelle. Selon le répertoire du patrimoine bâti publié par l'État québécois, la grange étable Bérère est jugée exceptionnelle, tant pour des raisons architecturales qu'historiques. Le bâtiment a été construit vers 1840, au temps de l'union forcée du Bas et du Haut-Canada. C'est un Allemand d'origine, Hans-Georg Bührer, qui l'a édifié, selon les techniques de son pays natal. Elle atteste d'une importante présence allemande dans le tissu historique québécois. Ce bâtiment figure par ailleurs dans plusieurs répertoires de bâtiments anciens du pays. Il est implanté, comme le note l'État québécois, à l'arrière d'une maison ancestrale située sur la rue principale du secteur Cap-à-l'Aigle de la ville de la Malbaie. Son existence prend sens dans ce contexte global. Le maire de la Malbaie, Michel Couturier, a déclaré au quotidien Le Soleil qu'il ne croyait pas que les deniers de ses concitoyens devaient être dépensés pour sauver des bâtiments pareils s'ils sont mal entretenus, tout en se demandant ce que de futurs propriétaires de la maison pourraient bien faire avec un tel bâtiment derrière chez eux, laissant à penser qu'il s'agissait plutôt d'un embarras. La grange quasi-bicentenaire a pu être visitée durant quelques années. Elle est laissée de côté depuis le milieu des années 1980 et son état général n'a cessé de se dégrader. Il faudrait aujourd'hui compter sur des ouvriers spécialisés pour la restaurer. Les coûts de la réfection ont été estimés à moins de 400 000 $, selon les montants qui ont été évoqués autour de ce dossier. Selon la loi, une municipalité peut exiger l'entretien des bâtiments. Le mot de la fin risque de revenir au ministère de la Culture et des Communications, MCC. Lui seul peut encore bloquer cette démolition. Ultimement, le MCC aura à se prononcer sur le dossier, puisqu'il pourrait s'interférer en vertu de la loi, a indiqué la Malbaie par voie de communiqué. Le MCC est intervenu déjà à plusieurs reprises auprès de la Malbaie, en faisant valoir l'importance de conserver ce bâtiment patrimonial. En vertu de la loi québécoise sur le patrimoine, les instances municipales locales ont le pouvoir de décider de l'avenir de bâtiments qui appartiennent au patrimoine collectif. C'était feu vert à la démolition d'un rare bâtiment agricole au toit de chaume. Un texte de Jean-François Nadeau paru le 5 avril 2024 dans Le Devoir.
Raconter les tabous. Une chronique d'Elsa Pépin parue le 5 février 2024 dans le magazine Les Libraires. Combien de gens hésitent à ouvrir ce livre? L'innommable tabou qu'est l'inceste effraie. À tous, je dis de lire ce livre. Pour contrer la stratégie d'évitement qui consiste à ne pas parler de viol d'enfants, mais surtout parce que ce récit est tout sauf rébarbatif et lourd. D'une saisissante beauté, Triste Tigre évite ce que Neige Sino craignait le plus, soit d'être lu à cause du sujet de son livre et non de sa qualité littéraire. On entre sans jamais vouloir le quitter, ce récit sobre et direct mené avec virtuosité. La parole simple et complice de Sino, d'une clairvoyance loin de toute esbroufe, raconte d'emblée les faits indicibles. Les agressions sexuelles qu'elle a subies de l'âge de 7 à 14 ans et menées par son beau-père. Citation: comment un homme peut avoir une érection devant un enfant de 7 ans à l'idée de ce qu'il va lui faire? Fin de citation, se demande-t-elle, osant ces mots tus dans les récits souvent elliptiques de l'inceste. Sino grandit au sein d'une famille de hippies néo-ruraux vivant dans une extrême précarité. Elle garde le silence au sujet des abus sexuels, sachant que si son agresseur est arrêté, sa mère tombera dans l'indigence avec 4 enfants et un salaire de femme de ménage. Au-delà des faits, Sino entame une quête de vérité et construit par touches successives une étude sociologique, psychologique et philosophique de l'inceste, n'épargnant aucune piste de compréhension. Elle fait dialoguer son récit personnel avec les représentations des tueurs en série, des extraits de Lolita et d'autres œuvres littéraires et récits d'inceste, revoyant les contes pour enfants, s'identifiant au Petit Chaperon Rouge, à Boucle d'Or ou à Alice au Pays des Merveilles. Citation: d'ailleurs, on sait ce qui leur arrive à ces gamines trop innocentes et trop délurées à la fois. Ellipse. L'innocence, ellipse, ce qui attire, c'est peut-être la possibilité de la détruire. Fin de citation. Sino radiographie avec nuance l'étrange fascination que nous avons pour les monstres, la place si difficile à prendre pour une victime même quand elle sort du silence, l'ombre qui la suit toute sa vie. Au fil de ces pages poignantes et courageuses dédiées à la noirceur du terrible trauma, on trouve des éclats de lumière, la beauté d'une parole déliée qui se bat pour sa survie, pour ne pas tomber. Sino s'abreuve de tout ce qui peut élargir le regard, résiste au mythe de la survivante sauvée par la parole ou la littérature. Il n'y a jamais de fin heureuse pour les histoires d'abus sexuels dans l'enfance, écrit-elle. Citation: parce que ce n'est pas fini. Ni pour moi, ni pour vous, ni pour personne. Ellipse, tant qu'un enfant vivra cela. Fin de citation. Celui ou celle qui écrit n'est pas sauvé parce qu'il parle. Il est déjà sorti de l'enfer pour pouvoir le faire, nous rappelle Sino. À la fois délicate et tranchante, la prose de Sino perce ce sujet épineux, même si l'explication échappe à la raison. Pourquoi donc un homme agresse une enfant? Éclairée par ces brillantes circonvolutions qui posent question par-dessus question et créent une toile aux mille ramifications, l'inceste reste un mystère, la vérité inatteignable. Citation: ce texte n'est pas une confession, il n'y a pas de journal intime, pas de sincérité possible, pas de mensonge non plus. Mon espace à moi n'est pas dans ces lignes, il n'existe qu'au-dedans. Fin de citation. Par cette assertion qui rompt avec la longue tradition de la confession de Saint-Augustin et Rousseau, Sino raconte que le seul journal intime qu'elle a écrit a été lu par son bourreau qui s'est plu à le lisant à entrer plus à l'intérieur de sa tête. la diariste brûlera son journal, se promettant de ne plus jamais fabriquer elle-même un objet qui la rende si accessible à la merci de n'importe qui. Formée dans le mensonge et la dissimulation, l'écrivaine raconte son impossible rédemption, même après avoir porté plainte à 17 ans contre son violeur et la condamnation de celui-ci à 9 ans de prison. Le viol atteint bien au-delà de la sexualité de la victime, les fondements même de son être, nous rappelle-t-elle, mais malgré la tragédie, il y a chez Sinaud de l'humour et une douceur qui refusent de se reconstruire dans un nouveau mal. Citation. Comment faire pour s'élever à une plus grande puissance sans que cela tourne à l'oppression d'un autre? Fin de citation, pose-t-elle en finale de ce récit magistral. C'est dans la fiction qu'elle s'est construite, en accédant à quelque chose de plus grand qu'elle. Triste Tigre confirme la grandeur de ce que peut la littérature face à l'abject. Le tabou de la mer distante. Julia Kerninon visite un autre tabou persistant dans « Sauvage », celui de la mère non entièrement dévouée à ses enfants. Ottavia Selvaggio, fille d'un grand chef cuisinier à Rome, devient chef à son tour, réhabilitant la place aux cuisines qui avait été enlevée aux femmes de sa lignée par une arrière-grand-mère ayant donné ses recettes aux hommes et fait dévier l'histoire. Ottavia met dans sa cuisine la révolte empêchée de sa mère, réinvente la cuisine en lui conférant des fonctions inusitées, transformée en levier pour réécrire l'histoire en courroie de transgression. Ottavia réinvente aussi la famille selon une configuration très peu habituelle. D'abord en couple avec son coéquipier cuisinier Cassio aux comportements erratiques, elle s'éprend ensuite de Bench, un critique culinaire qui étudie la littérature. Ensemble, ils auront 3 enfants, mais Ottavia vit d'abord pour le travail, sa passion, laissant son mari s'occuper de la maison et des enfants, à contre-courant de la représentation maternelle commune. La mère dévouée à son travail avant ses enfants demeure un grand tabou. On la trouve facilement ingrate et cruelle, mais elle existe, comme il existe toutes les sortes de mères, alors pourquoi ne pas les raconter aussi? Ottavia assume son côté sauvage et solitaire, se sent bien seulement dans une cuisine, dit que son absence sera une éducation pour ses enfants. Comme sa mère qui lui a donné de l'espace, du champ, une place pour elle, Ottavia ne sera pas une mère fusionnelle, mais plutôt distante. Combien de pères avant elle l'ont été? Portée par une écriture fluide au rythme soutenu, Sauvage présente une femme accro à l'ivresse du travail, nous fait plonger avec une légère fantaisie qui n'empêche pas la profondeur dans la vie extrême des cuisines de restaurants. Kerninon use d'autodérision pour présenter cette femme rebelle et hors norme qui secoue avec bonheur notre conformisme. C'était « Raconter les tabous », une chronique d'Elsa Pépin, parue le 5 février 2024 dans le magazine Les Libraires.
Aider chez Doris à aider les femmes en difficulté. Un publi-reportage de chez Doris paru dans le magazine Bel Âge. L'organisme chez Doris vient en aide aux femmes en difficulté, non seulement en leur fournissant un toit, des vêtements et des repas, mais surtout en les accueillant, dans un esprit d'inclusion et de respect, et ce, depuis maintenant 46 ans. Objectif pour 2024? Offrir plus de 42 000 repas, 17 000 produits d'hygiène et 8 760 nuits en refuge. Le moment est donc mieux choisi que jamais pour donner, permettant ainsi au Refuge montréalais de poursuivre sa mission de soutien à la réinsertion sociale auprès de plus de 1 500 femmes en situation de précarité. Émilie, 62 ans, est du nombre. Ces 3 dernières années chez Doris est devenu mon principal refuge. D'abord à travers ses services hôteliers, puis son refuge de nuit, raconte-t-elle. Depuis août, j'ai ma propre chambre à la résidence Bachetti. Enfin, je peux reposer mon corps fatigué dans un lit qui m'appartient et me détendre dans ma propre salle de bain. Malgré la détérioration de ma santé, je peux finalement retrouver de la dignité dans mes dernières années de vie. Chez Doris permet aussi aux femmes qui souhaitent se remettre sur pied d'habiter leur propre appartement. Je remercie la chance que j'ai eue d'avoir un appartement subventionné afin de me remettre sur pied et de pouvoir prendre soin de ma santé physique, explique Frankie, qui s'est retrouvée du jour au lendemain en situation d'itinérance à l'âge de 52 ans. Je veux retourner sur le marché du travail. Une des choses les plus importantes pour moi est de travailler avec la communauté itinérante. Encore plus de soutien. Chez Doris, n'entend pas s'arrêter là, affirme la directrice générale Marina Boulos-Winton. Les dons recueillis permettront en outre d'entreprendre d'importantes rénovations au sein du refuge de jour. De plus, nous avons acquis un petit hôtel situé sur la rue Saint-Hubert qui sera transformé en logement de transition d'ici 2025, annonce-t-elle. Cela signifie qu'il allégera la demande pour notre refuge d'urgence et offrira aux femmes l'opportunité de retrouver leur autonomie en 3 mois à 1 an. Parallèlement à ces initiatives, d'autres projets visant à soutenir les femmes vulnérables sont en cours de développement. Nous espérons disposer de plus d'espaces communautaires pour fournir davantage de repas et mettre en place des actions préventives auprès des femmes à risque, enchaîne Mme Boulos-Winton. Un don peut ainsi faire toute la différence dans la vie de centaines de femmes vulnérables. Donnez maintenant. Informations et dons en ligne chez Doris.org. C'était Aider chez Doris à aider les femmes en difficulté, un publié reportage de chez Doris paru dans le magazine Bel Âge.
Une intrigante patente, un texte de Louis Cornelier, paru le 17 février 2024 dans Le Devoir. Les vieux amateurs d'histoire du Québec que je rencontre me parlent souvent de la patente, qui semble les fasciner. Société secrète, dont le vrai nom était l'Ordre de Jacques Cartier, la patente se vouait à la défense des francophones partout au Canada. Née à Ottawa en 1926 et dissoute en 1965, la société a compté parmi ses membres célèbres des politiciens comme Louis J. Robichaud, Jean Drapeau, Jean-Jacques Bertrand, Bernard Landry, Pierre Laporte et Jacques Parizeau, ainsi que des intellectuels comme André Laurendeau, Marcel Chaput, Jean-Marc Léger et François-Albert Angers. Même le cardinal Léger en était, comme 10 000 autres Canadiens-Français en 1952. La patente, aujourd'hui, a perdu une bonne part de son mystère. Dans les années 1960, deux anciens membres trahiront leur serment de discrétion en révélant plusieurs secrets de l'ordre et en identifiant certains de ses dirigeants. Ce sera le coup de grâce. Ces jours, de toute façon, étaient comptés. Englués dans un conservatisme d'une autre époque, mise sous pression par la montée du sentiment indépendantiste au Québec, qui venait troubler l'unité de la francophonie canadienne, la patente avait fait son temps. Les historiens, depuis, notamment Denise Robillard dans « L'ordre de Jacques Cartier », Fides 2009, ont ausculté son cadavre. Si, aujourd'hui, l'historien Hugues Théoret y revient dans « La patente »,« L'ordre de Jacques Cartier »,« Le dernier bastion du Canada français », Septentrion 2024, 200 pages, c'est qu'il croit que malgré tout ce qui s'est écrit sur le sujet, il reste encore beaucoup de mystères autour de l'ordre de Jacques Cartier. Quelle était sa pensée profonde, son idéologie? A-t-il eu une véritable influence? Un mot d'abord sur le style de Théoret. En histoire, on a généralement le choix entre des livres savants, trop détaillés et trop exigeants pour le grand public, et des livres populaires, plaisant à lire mais superficiel. Théoret combine les qualités des deux approches. Rédigé dans un style limpide, ses ouvrages reposent sur une base documentaire solide et souvent originale. Il n'a pas le grand style des Marcel Trudel et Éric Bédard ou du jeune François-Olivier Doré, mais ses essais brillent par leur agréable et instructive clarté. Pour rédiger la patente, il a bien sûr dépouillé les archives de l'Ordre de Jacques Cartier, pleinement accessibles depuis l'an 2000, et consulté tous les numéros de l'Émérillon, bulletin de liaison de la société. Avec ce livre, nous sommes donc plongés au cœur du secret et découvrons, sans jugement de valeur, ce qui animait ses porteurs. En 1926, les Canadiens français ne trouvent pas leur juste place au Canada. Leur langue est bafouée dans toutes les provinces, ça n'a pas changé, et leurs élites n'ont que peu accès à la haute fonction publique fédérale et à l'état-major des forces armées canadiennes. Pour s'imposer dans les lieux de pouvoir, les Canadiens anglais peuvent s'appuyer sur le réseautage que leur offrent les loges maçonniques, les chevaliers de Colomb et l'Ordre d'Orange. Les Franco-Ontariens, rapidement rejoints par des Québécois qui fondent l'Ordre de Jacques Cartier, souhaitent offrir un outil semblable à leurs compatriotes francophones. L'organisation, résume Théoret, sera l'épée et le bouclier de tout le Canada français. Réservée aux hommes, qui ne peuvent y entrer que sur invitation, la patente mène essentiellement 5 combats. La défense du fait français, la sauvegarde de l'influence du catholicisme, la dénonciation du communisme, la promotion de l'achat chez nous et la valorisation du monde rural. Elle s'inscrit donc dans l'esprit du duplessisme et du nationalisme conservateur. La stratégie de l'ordre est de noyauter les lieux de pouvoir afin d'y imposer ses idées. Elle contribuera ainsi, selon Théoret, à l'adoption du timbre, de la monnaie et des chèques bilingues au Canada, à l'expansion des caisses populaires, à la reconnaissance du fleur-de-lysée comme drapeau du Québec en 1948, à l'ouverture du Collège militaire royal de Saint-Jean en 1952 et à celle de l'Université de Moncton en 1963, de même qu'à l'élection de Jean Drapeau à la mairie de Montréal en 1954 et à celle de Louis J. Robichaud comme premier ministre du Nouveau-Brunswick en 1960. Le parcours de la patente n'est pas sans tache. Certains de ses membres ont flirté avec la tentation fasciste et antisémite dans les années 1930. Tout au long de son histoire, de plus, l'ordre n'a pas brillé par son ouverture aux idées modernes. Théoret conclut néanmoins, à raison, que le bilan de la patente est plus positif que négatif et que le Canada français avait besoin d'une telle force de frappe. Lui fallait-il ajouter que la renaissance du Canada français d'un océan à l'autre, aujourd'hui, constitue un bon programme? Pas sûr. C'était Une intrigante patente, un texte de Louis Cornelier, paru le 17 février 2024 dans Le Devoir.
Certains Canadiens se sentent un peu plus optimistes quant à leurs dettes. Un texte de la presse canadienne paru le 8 avril 2024 dans Le Devoir. Certains Canadiens se sentent un peu plus optimistes quant à leurs dettes avec la perspective de réduction des taux d'intérêt à l'horizon, selon la firme MNP. L'indice des dettes à la consommation de la firme spécialisée en insolvabilité démontre un rebond important au premier trimestre de 2024 après 12 mois de résultats faibles, selon son dernier rapport. Plus du quart des Canadiens estiment que leur situation actuelle en matière d'endettement est meilleure qu'il y a un an. Moins de ménages canadiens que le trimestre dernier, soit 41%, se disent préoccupés par leur niveau d'endettement actuel. La situation n'est pas aussi sombre qu'elle l'était. C'est ce qui ressort principalement du dernier rapport, a souligné le président de MNP, Grant Bazian, dans un communiqué. Mais malgré le regain de confiance des consommateurs, les ménages canadiens ressentent toujours la pression, a-t-il ajouté, alors que d'autres renouvellements de prêts hypothécaires se profilent et que le coût de la vie continue d'augmenter. La moitié des personnes interrogées se disent préoccupées par ce que MNP décrit comme une pression sociale, c'est-à-dire qu'elles craignent de dépenser de l'argent pour leur style de vie ou pour leurs obligations sociales. De nombreux Canadiens se sentent dépassés et découragés par les coûts associés aux activités sociales, qu'il s'agisse d'anniversaires, de mariages ou de remises de diplômes. Certaines personnes risquent d'aggraver leur situation parce qu'elles n'ont tout simplement pas les moyens de participer, a indiqué M. Bazian. Moins de Canadiens qu'auparavant se disent préoccupés par leur capacité à rembourser leurs dettes, mais près de la moitié des participants ont déclaré qu'ils étaient à 200 $ ou moins de ne pas respecter toutes leurs obligations financières, un chiffre qui n'a pas changé par rapport au dernier rapport. La Banque du Canada semble prête à commencer à réduire son taux directeur cette année, alors que l'inflation s'est considérablement atténuée par rapport à ses sommets. La hausse des taux de la Banque centrale les a amenés à des niveaux plus élevés qu'ils ne l'avaient été depuis des années. À mesure que les prêts hypothécaires des Canadiens devaient être renouvelés, ils ont été confrontés à des mensualités considérablement plus élevées pour leurs maisons, tandis que les coûts de location ont également grimpé. 4 ans après le début de la pandémie de COVID-19, le tiers des Canadiens ont dit être dans une situation financière pire qu'avant la pandémie, en particulier parmi les personnes à faible revenu et celles âgées de 35 à 54 ans, a précisé MNP. C'était « Certains Canadiens se sentent un peu plus optimistes quant à leurs dettes », un texte de la presse canadienne paru le 8 avril 2024 dans Le Devoir.